Bible de l'humanité, 3, la Grèce, chapitre 7, Hercule. Dans cette belle lumière de Delphes, une ombre m'est restée. Je voudrais l'écarter. Elle me suit. Est-il sûr que le dieu du jour est pour jamais vaincu dans le serpent Python, les vieilles puissances de la nuit? Au long des sombres défilés des étroites vallées de Phocide, le long des précipices, devant ces grottes aux singuliers échos, les figures fantastiques des pans m'apparaissent toujours. Plus loin, au pays des centaures, ces formes monstrueuses osent encore, le matin, le soir, se montrer aux basses prairies. À Delphes même, au temple, sans respect pour la lyre du dieu, des bruits arrivent, étranges, le tambourin barbare, la flûte de Phrygie, les lourds pleurs de l'ivresse et d'indignes sanglots. Un témoin des plus graves, Aristote, nous le dit. Quand la Grèce fut rassurée par sa grande victoire sur l'Asie, une autre guerre, contenue jusque-là, éclata avec violence, celle de la flûte et de la lyre. La première, à grand bruit, se déchaîna partout, et avec elle, le cornu d'Orient, dieu bouc, dieu taureau et dieu femme. Ce nouveau venu, ce Bacchus, déjà s'était glissé au mystère de Cérès, comme son fils, l'innocent Iacchus. Il grandit par la force d'une fable pleureuse, l'enfant mort et ressuscité. Par là, il fut bientôt le maître des mystères et de la pauvre Cérès même. Une fumée malsaine semblait errer, flotter. Tout ce que la nature a de secrets orages, tout ce qu'un cœur malade a de fièvre et de rêve, ce que la lumière d'Apollon, la lance de Pallas, avait intimidé, se lâcha et ne rougit plus. La femme, que les guerres tenaient au foyer, seule et veuve, la femme échappe et suit Bacchus. Les longs vêtements tombent. Elle court, les cheveux au vent, le sein nu, délire étrange. Quoi, pour pleurer Bacchus, faut-il se faire aigu sous la vigne trompeuse? Faut-il la nuit et le désert? Ses courses aux forêts, ses cris et ses soupirs, pendant qu'une musique lugubre couvre d'un faux deuil leur transport. Le même témoin nous le raconte. La furie de la flûte, c'est-à-dire de Bacchus, après les guerres médiques, s'attaqua à Lacédémone. Ses fortes filles, délaissées, se vengent de l'amour. Elle promène l'orgie sur l'âpre Tégète. Mais Athènes n'est pas au-dessous en folie. Partout, la flûte et le délire. Partout, de furieuses tiades. Celle d'Athènes allait en bande à Delphes même, sous les yeux d'Apollon, des chastes muses, enlever les Delphiennes, les faire délirer avec elles, courir la nuit, ne les rendait qu'au jour. L'air d'alentour n'est plus le même. La sauvage vertu d'Hippolyte, où les vainqueurs des jeux cherchaient l'énergie souveraine, elle chancelle, elle mollit. Ils sont trop fiers, ces mâles, pour rechercher la femme. Ils ont pour les Bacchantes un accablant mépris. Et cependant, miracle affligeant de Bacchus, ce bruit trouble, énerve, alanguit. C'est comme un orage imminent qui fait respirer mal. L'esprit erre aux forêts. Où vont-elles et que veulent-elles? Je ne les suivrai pas, mais je voudrais savoir. Est-il vrai que le faon déchiré de leurs ongles est mordu de leurs dents, que leur sang chaud à longs traits les anivre, gonfle leur sein d'amour pour ce dieu femme qui fait haïr les mâles, qui leur fit mettre à mort Orphée? Que t'importe, jeune homme? Viens avec moi plutôt. Asseyons-nous aux pieds de ces héros d'airain que le soleil levant de Delphes embrase. tous les monts se couronnent de lumière vive et pure. Dentelés finement, comme d'un net acier sur l'azur, leurs pics percent le ciel. Celui-ci, calme et fort, qui regarde d'en haut tous ses voisins de Thessalie, il triomphe en sa gloire. C'est Œta, le bûcher d'Hercule. Puisse la légende héroïque lutter contre Bacchus. Puisse le bon, le grand Hercule raffermir, soutenir ce jeune homme chancelant, le tenir ferme et haut dans le sein parti de la lyre. Hercule, qu'on croit grossier, ne connaît que la lyre. S'il a été parfois un rival d'Apollon, il est encore plus son ami. Il est le héros d'Occident que persécute l'oriental Bacchus, le féminin, le furieux. Ce qui avait manqué au noble dieu du jour pour soutenir cette grande guerre, voudrais-tu le savoir? C'est la peine, la douleur, la mort. C'est le bûcher, mon fils. Apollon, qui n'est que lumière, n'a pu descendre au royaume sombre. Il n'a pas eu la lutte, il n'a pas eu l'effort contre la mort, contre l'amour. Il n'a pas eu le malheur et les crimes involontaires et les expiations d'Hercule, cette flamme enfin qui, traversée, le met pur et vainqueur au ciel. Mais ce qui a manqué le plus à Apollon, c'est le travail. Il avait essayé, il se fit maçon même, mais sa trop fine main n'aurait perdu la lyre, n'en aurait plus senti les cordes délicates. À d'autres, il a laissé les labeurs, la sueur, la course aux pieds ailés d'Hermès, la lutte aux bras d'Hercule, les œuvres méprisées de la grande lutte contre la terre. Il lui laisse le meilleur peut-être, le dur travail, mon fils, le grand viatique de la vie qui la maintient sereine et forte. L'art éthéré, la muse, sont-ils assez? J'en doute. Suffisent-ils pour nous soutenir contre l'assaut de la nature? Non, crois-moi, il faut la fatigue, le travail de toutes les heures. Moi, je le remercie. Il m'a servi, mené, mieux qu'un meilleur peut-être. Je mourrai riche d'œuvres, sinon de résultats, au moins de grandes volontés. Je les dépose aux pieds d'Hercule. Il y a 100 héros dans la Grèce, mais il n'en est qu'un seul dont les exploits soient des travaux. Chose étrange et qui stupéfie, la Grèce a un bon sens si fort, une raison si merveilleusement raisonnable que, contre ses préjugés même, le mépris des labeurs qu'elle nomme servile, son grand héros divinisé, c'est justement le travailleur. Et songez qu'il ne s'agit pas de travaux élégants, nobles, tout héroïque, il s'agit des grossiers, des vils et des immondes. Mais la magnanime bonté de ce héros ne connaît rien de bas en ce qui sert le genre humain. Il combat corps à corps les marais, hydres empestés. Il force les fleuves de l'aider, ici les divisant, là les lançant d'ensemble dans ces étables d'Augias qu'il noie, balaie et purifie. Qui aurait fait l'arc d'Apollon? Pour détruire à jamais Python, il fallait bien plus que des flèches. Il fallait la persévérance et l'humble héroïsme d'Hercule. Le grand libérateur des Perses, on l'a vu, est le forgeron. Goustaspe aussi, l'un de leurs grands héros, choisissant un métier, prend la forge et l'enclume. Mais le fer ennoblit, le marteau est une arme aussi bien qu'un outil. La Perse n'eût osé mettre son héros aussi bas. Le génie grec est si hardi, si libre, et libre de lui-même, qu'il n'a pas craint d'abaisser son Hercule, qui en effet n'en devient que plus grand. Il remplit l'idéal persan mieux que la Perse même n'a pu le faire. Bienfaiteur de la terre, il la purge et il l'embellit. Il en bannit les morbides torpeurs. Il l'oblige au travail, il crée des champs féconds. Il perce les monts de Thessalie et les eaux dormantes s'écoulent. Voilà un paradis, la vallée de Tempée. Partout des eaux pures et rapides, des voies larges et sûres. Il est l'ouvrier de la terre, son artisan qui la façonne pour l'usage du genre humain. Cette conception d'Hercule étonne en tous sens. Elle dépasse énormément et l'Iliade et l'Odyssée. Hercule a la fougue d'Achille, mais bien plus de bonté. S'il a méfait, il se repent, répare. Sa simplicité héroïque l'éloigne fort d'Ulysse. Ce parfait grec des îles, si rusé, est bien loin du vaste cœur d'Hercule. Par terre, par mer, Ulysse cherche sa petite patrie, l'autre la grande. Il veut le salut de la terre, l'ordre et la justice ici-bas. Hercule est la grande victime, l'accusation vivante contre l'ordre du monde et l'arbitraire des dieux. Sa mère, la vertueuse Alcmène, fidèle, l'a voulu légitime, et il se trouve bâtard. Consul aîné, il n'est cadet par l'injustice de Jupiter. Enfin, il est esclave. Esclave de son aîné, le faible, le lâche Risté. Esclave domestique et vendu. Esclave de sa force et de l'ivresse du sang. Esclave de l'amour, car il n'a rien autre ici-bas. Sa force épouvantable est sa fatalité. Il n'est pas en rapport avec la faiblesse du monde. Souvent, il croit toucher, il tue. Ce bienfaiteur des hommes, généreux défenseur des opprimés, des faibles, vit accablé de crimes involontaires, de repentirs, d'expiations. On le représentait petit, trapu, très noir. Il tient de la bonté du nègre autant que de sa force. Antar, l'Hercule arabe, est noir. Dans le Ramayana, l'Hercule indien, si bon, si fort, qui porte les montagnes, Hanuman, n'est pas même un homme. Ainsi, partout, l'instinct populaire a pris pour héros le dernier, le plus humble, la victime du sort. C'est la consolation des foules opprimées d'opposer la grandeur du misérable et de l'esclave à la sévérité des dieux. Un Hercule à un Jupiter. Légende des tribus inférieures, touchante, mais sublime et bouffonne. Ils font Hercule à leur image. Il a des appétits terribles, mange un bœuf, mais il est bon. Il laisse rire de lui. Il aime à rire lui-même. Quand il a pris, vivant, l'affreux sanglier de Rimante que lui demanda Eurysthée, il le lit, il la porte hérissée, la hure noire montrant les dents blanches. Le roi, épouvanté d'un tel don, s'enfuit de son trône à toutes jambes, se met dans un tonneau d'airain. On croit lire la scène allemande de l'ours que Siegfried s'amuse à lâcher dans les Nibelungen. Hercule étant la force même, les plus forts, les Doriens, se l'adjugèrent, le firent l'aïeul des rois de Sparte. Mais il est justement le contraire de l'esprit spartiate. Il est l'homme de l'humanité, hors de l'égoïsme exclusif d'une cité si concentrée en soi. Il vint chez les Athéniens qui, gracieusement, assurèrent qu'à sa naissance, Minerve l'avait recueilli dans ses bras. On l'établit à Marathon, on le fit ami de Thésée. Et toutefois, sa légende est loin d'être athénienne. Il humilie Athènes en sauvant Thésée des enfers. Il est le héros propre au pays des athlètes, à la bonne, à la vaillante Béotie, méprisé bien à tort d'Athènes, pays rural de poètes et de héros, d'Hésiode, de Pindare, d'Épaminondas. Il est de Thèbes, à moins qu'il n'y vienne de la forte Argos. Il a grandi autour d'Élée et d'Olympie, dans leurs riches plaines. Jeune, Il a combattu aux profondes forêts d'Arcadie. Il est l'enfant d'adoption de ceux dont on parle trop peu, des tribus inférieures qu'éclipsait la cité, d'une Grèce moins brillante, mais forte, généreuse, qui eut moins d'art et plus de cœur peut-être. Monde obscur et sans voix, il survit dans Hercule. Trois ou quatre alluvions de races antiques, superposées en quelque sorte, sont en ce jeune dieu, qui est venu assez tard dans la mythologie. Les Pélages n'ont pas tous péri, ni les glorieux Achéens qui prirent Troie, les masses assujetties qui cultivaient la Thessalie, qui y firent les travaux nommés du nom d'Hercule, subsistaient à coup sûr. Tous purent contribuer à la grande légende. Dans ses statues, Hercule a le trait des athlètes. La frappante disproportion du pectus énormément large et de la tête fort petite. Même inégalité dans sa nature morale. Il a de la bête et du dieu. Quand le barbare arrêt de Jupiter lui a signifié que lui, le fort des forts, il sera esclave du lâche, il tombe en un affreux délire, devient fou de douleur, ne reconnaît plus ses enfants, y croit voir des monstres et les tue. Et il est le plus doux des hommes, le plus docile, ô Dieu. Dès qu'il revient à lui, sans foyer, sans famille, il commence le grand solitaire, les durs et longs travaux qui vont sauver le genre humain. Le premier, c'est la paix. Il la mettra partout en Grèce par la force de son bras. Les aînés du vieux monde, les monstres, hydres et lions, sont étouffés. Les nouveaux tyrans, les brigands, sentent le poids de sa massue. Les forêts malfamées, les défilés sinistres deviennent sûrs. Les fleuves indomptés sont vaincus, resserrés, forcés de marcher droit. Leur rive est une route. La Grèce librement circule, communique avec elle-même, s'assemble à Olympie où Hercule a fondé devant l'autel de Jupiter les combats de la paix, des combats non sanglants. Là, lui-même, il enseigne les exercices qui feront des Hercules, qui créeront le calme héroïsme, qui fonderont l'homme indestructible et le feront de fer pour servir la justice. Mais nulle concurrence violente, nulle animosité. L'olivier est la seule couronne qu'il donne au vainqueur de ces jeux. La Grèce est trop petite, il part. La paix qu'il y a faite, il veut l'étendre au monde, partout fonder le nouveau droit. L'ancien fut sur tous les rivages d'immoler l'étranger. En Tauride, une vierge l'égorgeait aux autels. En Thrace, un roi barbare jetait des hommes aux chevaux furieux, les saoulait de chair humaine. Au nord, la cruelle Amazone faisait riser du sang des mâles. Même férocité en Afrique, où Busiris donnait aux naufragés l'hospitalité de la mort. Au bout du monde, en Ibérie, Gérion dévorait les hommes. Voilà les adversaires d'Hercule. Il les cherche au-delà des mers, les trouve et les atteint, les traite comme ils avaient traité leurs hôtes. La loi de l'hospitalité se fonde, du Caucase jusqu'aux Pyrénées. Hercule rompt les mystères qui firent la force des barbares. Il brave la sombre mer du Nord, sanctuaire des tempêtes, où nul n'osait entrer, mer féroce, inhospitalière. Il sourit et l'appelle Euxène, hospitalière. La reine de cet affreux rivage, l'Amazone, est domptée comme sa mère elle-même. Il lui enlève sa ceinture et par là son féroce orgueil. Partout devant lui, la nature perd sa virginité sauvage. À Gadès, il rompt la vieille barrière. D'un coup d'épaule, il écarte deux mondes, fend le détroit. Par lui, la petite Méditerranée devient femme du grand océan et, tournant le dos à la Grèce, regarde la lointaine Atlantide. Son flot salé d'azur, émancipé, bondit dans cette immensité que n'a pas vue le ciel d'Homère. L'Olympe est dépassé. Que deviendront les dieux? Le téméraire ne s'est pas arrêté. L'infini ténébreux de la forêt celtique ne l'intimide pas. Il la perce en ses profondeurs, il perce les glaciers des Alpes, la désolation éternelle. Il rit des noirs sapins, il rit de l'avalanche. De ce lieu de terreur, il fait sans façon une route, la grande route du genre humain. Tous désormais, et les plus faibles, pauvres, femmes, vieillards courbés sur leurs bâtons, sans peur, suivent le chemin d'Hercule. Il avait fait beaucoup. Il laissait derrière lui des monuments durables. Il crut pouvoir s'asseoir et se reposa sous l'Etna, au pied du grand autel qui fume éternellement. Il respira, il contempla, paisible, ses champs sacrés, bénis, toujours parés des fleurs que cueillit Proserpine, et il rendit grâce aux déesses. Son cœur vibra de joie. Dans sa simplicité héroïque et point orgueilleuse, il prononça ce mot. « Il me semble que je deviens Dieu. » Les dieux l'attendaient là. Némésis l'entendit. Cette déesse sauvage et son génie funèbre athée volent incessamment par toute la terre et recueillent les mots imprudents de la prospérité, ces cris de fierté ou d'audace qui, par malheur, nous montent aux lèvres et donnent aux jaloux de là-haut un prétexte pour nous punir. Némésis ou Moïra veut dire distribution, partage. Elles ont fait des lots aux mortels, mais avec des réserves avares. Elles donnent peu et gardent beaucoup. Elles lâchent certaines faveurs en limitant, refusant le surplus, le trop, l'excès. Ce trop, c'est la gloire, le génie, la grandeur de l'homme, ce par quoi il se ferait Dieu, donc, ce que les dieux frappent. Dédale, Icare, Bellérophon furent punis d'avoir pris des ailes. Dans Homère, les vaisseaux trop hardis, trop heureux, sont changés en rocs par Neptune. Le bon et pieux Esculape n'a-t-il pas été foudroyé pour avoir guéri, sauvé l'homme? Bien plus criminel est Hercule, la mère des hommes et des dieux, charmante et vénérable Terramater, il l'a forcé. Il a beau dire que c'est amour qu'en lui perçant ses monts et purgeant ses marées, arrachant la noire chevelure de ses forêts humides, il a émancipé Cérès. Elle en reste troublée. Si, jadis, à en croire la fable, elle pleura des assauts de Neptune, combien profondément doit-elle être indignée contre Hercule, qui n'est qu'un mortel? L'est-il? Ne l'est-il pas? Ce téméraire avec ses travaux surhumains? C'est ce qu'il faut savoir. Entre les vieilles déités outragées de la terre et la jalousie du jeune Olympe, se fait un pacte étrange. Le dernier-né, Bacchus, faux frère d'Hercule, entreprend de le perdre. Mais que dit Jupiter? Il laisse agir. Pour éprouver son fils, ou par malveillance pour l'humanité trop hardie, il cède au favori Bacchus, il cède au dieu. Hercule mourra. Il sera convaincu d'être homme. Bacchus, l'efféminé, qui passe sa vie en longue robe dans le demi-sommeil d'une molle femme, se garde d'affronter Hercule. Il s'en va trouver les centaures, cette race bizarre, de fougue et de force indomptée, venait d'une étrange mère, la Nue, divinité mobile, parfois fumée légère ou brouillard fugitif, parfois grosse d'éclairs, pleine de foudre, d'une élasticité plus terrible que la foudre même, d'épouvantable expansion à lancer des montagnes au ciel. Les fils de la Nue les centaures, effrénés coursiers par en bas, colériques, de rudes furieux, sont hommes de folie, de caprice, inflammables comme leur mère. De plus, par sa magie, ils tiennent des fantômes grossiers du Moyen-Âge, monstrueuses apparitions de terreurs fantastiques, mauvais songes, affreux cauchemars qui font délirer, rendent fous. Peuple d'autant plus dangereux qu'il était fort divers, d'esprit contradictoire. Chiron était un sage, un autre, Pholoé, un bon centaure, était l'hôte d'Hercule et son ami. C'est lui, simple et crédule, que Bacchus abusa. Il lui apporta un breuvage terrible, l'eau de feu du sauvage, lui dit de n'ouvrir le tonneau qu'au jour où il aurait chez lui Hercule. À peine ce vase est-il percé que sa vapeur s'épand, tous les centaures délirent. Orgueil, haine ou envie, folie vaine et légère. Quelle que soit leur pensée, ils s'emportent, ils assaillent le héros pacifique. Les rocs volent, les forêts arrachées dans les airs, des chaînes de Milan tout brandies, grêle horrible. Le ferme héros, son calme cœur d'airain, n'en est pas étonné. Il répond avec avantage, leur relance leurs chaînes et leurs rocs, mais d'un bras bien plus sûr. La terre est jonchée de ces monstres. Le soir, c'était fini. On n'a plus revu de centaure. N'ayant pu le surprendre, l'assassiner, on le condamne. Il subira tout, on le sait. Jupiter le décrète, Eurysthée le prononce. Il mourra par obéissance. Le tyran lui dénonce son fantasque désir qu'Hercule aille aux enfers, lui ramène le chien aux trois têtes. Amère dérision pour un être mortel qui ne peut obéir qu'en entrant dans la mort, dans la fatalité de ne pouvoir plus rien et de n'obéir même pas. Que la mort est amère, mais surtout pour l'effort, pour ceux qui sentent en eux toutes les énergies de la vie. Aux faibles et aux malades, la mort est délivrance. Hercule, le vivant des vivants, c'est un énorme effort pour lui d'en venir à mourir. On voit que, dans son cœur, il dirait « Arrière cette coupe !» Mais il ne le dit pas, il va trouver Cérès, la bonne et l'oublieuse. Il s'initie à ses mystères, il l'a pris humblement de le fortifier. Il va s'asseoir encore au lieu de sa jeunesse, de ses premiers exploits, dans cette Thessalie où il créa Tempée. Le roi Admète, en deuil, le reçoit et l'accueille. Il apprend que la reine Alceste, pour sauver son mari malade, conserver à son fils un père plus utile qu'elle, a embrassé la mort, vaillamment descendu au royaume sombre. Hercule est attendri. Ce grand palais désert, l'époux au désespoir, l'enfant noyé de pleurs, tout un peuple autour d'un tombeau, cela a percé sa grande âme. Il ne sait plus s'il est mortel. Il ira aux enfers, affrontera Pluton, vaincra la mort, ramènera à l'époux l'épouse adorée. Admirable folie de la pitié. Mais les plus forts sont les plus tendres. Dans toute cette légende, on n'a guère parlé de Minerve. Mais par bonheur, elle le suit. Ce n'est pas en vain qu'à sa naissance, elle l'a reçue du sein de sa mère. Minerve, au moment solennel, décisif, reparaît. Me voilà rassuré. Derrière ce fou sublime, je vois la sagesse éternelle. Il va, il descend, il pénètre. C'est l'enfer qui a peur d'Hercule. Cerbère vient lui lécher les pieds. Pluton est interdit. Proserpine intercède. Eh bien, qu'il aille, qu'il triomphe. Et il ne sort pas seul. Une femme voilée le suit. Elle rentre ainsi à son foyer. Admète ne peut pas deviner, il la méconnaît, la refuse, mais le voile s'est levé. Assez, ne touchons pas à cette scène unique que personne n'a lue sans pleurer. Quel enfer désormais, peu de choses. On en rit, les furies ont eu peur. Charon a obéi, un vivant n'a passé la barque et repassé. Cerbère a lâchement la queue entre les jambes, tête basse, suivi le vainqueur, puis au jour s'est évanoui. Le frère de Jupiter, le roi du Tartare même, outragé et impunément, semble aujourd'hui reculer dans les profondeurs vides, le douteux brouillard de là-bas. Grand coup, terrible aux dieux qui certainement se vengeront. Cette dernière victoire doit porter malheur à Hercule. Étrange destinée, sa seule impiété, c'est de valoir mieux que l'Olympe. Telle est sa douceur d'âme, sa magnanimité, qu'il combat pour venger l'outrage qu'a reçu la femme de Risthée, le dur persécuteur, le cruel tyran de sa vie. Vertu nouvelle et excessive, inouïe chez les dieux d'Homère, ils sont ici humiliés. Que le bien soit rendu pour le mal, ces choses ordonnées au vieil Orient monastique et trop aisées peut-être aux faibles. Mais que ce soit le fort des forts, Hercule, qui montre cet excès de bonté, cela est neuf, original. C'est le ciel même du génie grec. Le ciel du cœur détruit le ciel de fantaisie et d'imagination. Enfer, Olympe, tous les deux ont croulé. Reste une chose, la grandeur de l'homme. Eh bien, si tu es homme, c'est par là qu'on t'attaquera. Ton courage est invulnérable, mais non pas ton amour, non pas ton amitié. D'abord, il perd son frère qu'il aime. Il perd le compagnon de ses travaux, le courageux ami qui le suivait partout, qui lui portait ses armes. Désormais, il ira, il combattra seul sur la terre. Les forts sont très faibles au chagrin. Ils s'en laissent effarer. Hercule a déliré jadis. Et depuis sa descente aux enfers, depuis qu'il a vu la mort même, sa tête est ébranlée. Son cœur, plein de troubles et de deuil, invoque le médecin dangereux qui se moque de nos maux, l'amour. Il se remet à lui, le suit comme un taureau plein de vertige va au-devant des coups mortels. Il aime Déjanire, la dangereuse et la jalouse. Il aime Iole et il ne trouve en cet amour qu'outrage. Le frère d'Iole repousse le bâtard, le serf de Risthée. Il irrite Hercule qui le tue. Malheur affreux. Il est inconsolable. Il sèche, il languit. Et, malade, il va consulter Apollon. Voici son oracle sévère. Paie-leur le prix du sang. Mais je n'ai rien au monde. Tu as ton corps, vends-le, vends-toi comme esclave à Nasie. Hercule obéit à la lettre. Dans cette molle Asie, dans la Lydie efféminée où l'homme est femme, il n'a pas même un maître. Il a une maîtresse, une femme, la reine Omphale. Était-ce assez? Non pas. La fable ajoute que, par une double servitude, l'esclave le fut jusqu'à l'âme, misérablement amoureux de la cruelle qui s'amusa de lui. Elle donna ce désolant spectacle, Hercule déguisé, Hercule femme, horriblement burlesque. On en tremblait. Mais elle, rieuse impitoyable, elle exigea pour comble que l'esclave parût travailler librement, qu'il filât et montrât à tous qu'il était serf de la fatalité moins que d'un lâche amour et de son faible cœur. Le monde en rit et l'Olympe en chantait. Il ne fut délivré qu'afin de souffrir plus encore. Il retourna en Grèce, rejoignit Déjanire. Après de tels malheurs, le cœur humilié se cache volontiers dans l'amour et la solitude. Il l'emmène au désert. Mais voilà, sur la route, une étrange aventure. Un fleuve leur barrait le chemin. Pour passer Déjanire, se présente un jeune centaure, seul échappé de tous les siens. Voulut-il les venger? Ou, selon les instincts aveugles de sa race, devint-il fou de Déjanire? On ne le sait. Mais, arrivé avec elle au rivage, Hercule étant encore sur le bord opposé, il s'assouvit sur elle. Hercule avait ses flèches terribles, empoisonnées du sang de l'hydre de Lerne, et cependant, d'abord, il hésitait, craignant de blesser Déjanire. Il tire enfin, perce le monstre qui, dans la double crise, est du plaisir et de la mort, versant la vie, l'amour, la rage mêlée de l'infernal velin, s'arrache sa tunique souillée et dit à Déjanire : Prends-la, c'est l'âme de Nessus, l'amour y est et l'éternel désir. Ce fut la mort d'Hercule. Il l'a mis peu après, cette tunique meurtrière, l'ayant reçue de sa trop simple épouse, qui crut être aimé davantage. L'horrible poison le brûlait. Désespéré, il refusa à la mort de l'attendre. Il la prévint. Il s'affranchit et jeta là ce corps funeste qui avait tant agi, souffert, traversé les misères humiliantes de notre nature. D'arbres amoncelés sur le tas, il fit un bûcher colossal et voulut qu'un ami, son dernier ami, l'allumât. Dans les tourbillons de la flamme, il fut enveloppé, monta. Il a monté au ciel, dit-on. Mais quel ciel ! Quel Olympe ! Sa trop forte légende a tué les Olympiens. Ce qu'on ajoute et ce qui est certain, c'est qu'Hercule épousa la jeunesse éternelle. En effet, il vit, reste jeune. 2 ou 3 000 ans n'y font rien. D'autres mythologies ont pu venir, d'autres sauveurs ont pu varier le grand thème éternel de la passion. Les incarnés de l'Inde ont eu pour passion de traverser la vie humaine et d'en éprouver les misères. Ceux d'Égypte, de Syrie, de Phrygie, les Osiris et les Adonaï, les Bacchus, les Attis, ces dieux mutilés, mis en pièces, ont souffert, ont pâti. Mais leur passion passive, loin de nous donner force, a fait nos découragements, et leur fatale légende crée l'inertie stérile. C'est dans la passion active, herculéenne, qu'est la haute harmonie de l'homme, l'équilibre, la force qui le rend fécond ici-bas. La Perse eut cette intuition, mais vague, élémentaire encore. L'Hercule grec est précis, fortement dessiné, d'une personnalité si sûre qu'on ferait son portrait bien mieux que ceux des héros historiques. Sa compacte solidité le met à part de tous les dieux, et c'est lui, par contraste, qui fait sentir leur transparence. Pour le fiévreux Bacchus qui lui disputait le terrain, il se perdra lui-même dans les troubles vapeurs de la nuit, de l'orgie, les fumées d'Orient. L'ombre d'Hercule, la dépouille d'Hercule, son souvenir, ses leçons d'Olympie, voilà ce qui a fait les grandes réalités réelles, Platée, Marathon, Salamine. Mais ce qui le fait survivre à la Grèce elle-même, ce qui le fait l'époux de l'éternelle jeunesse, le jeune et le vivant, et le héros de l'avenir, c'est son humble et sublime rôle de travailleur, d'ouvrier héroïque. Il n'a rien redouté, il n'a rien dédaigné, car, en fondant le droit de la paix entre l'homme et l'homme, il a pacifié et civilisé la nature, percé les monts, émancipé les fleuves, dompté, purgé, créé la terre. Il est l'artisan courageux, le bras fort, le grand cœur patient qui la préparait pour l'artiste, second créateur, Prométhée.